chapitre 5, il faut se venger. C'est là par conséquent que ce soir, il se réfugia et vint se camper avec ses hommes. Les premières nouvelles qu'il reçut de ses agents ne furent pas pour le mettre de bonne humeur et lui donner bon espoir. Avec anxiété, il attendait le résultat de l'attaque de l'automobile. C'était, on n'en doute pas, un coup préparé et sur lequel le commandant comptait beaucoup. Le commandant espérait que ses hommes surprendraient les agents de Marin Dumas. Les renseignements qu'il avait reçus lui disaient que l'automobile de Marin Dumas ne contenait que 3 ou 4 hommes. Donc, en attaquant cette voiture en nombre, il avait toutes les chances de succès. Et ce succès imprévu donnerait fort à réfléchir au roi des détectives et rabattrait le contentement qu'il devait éprouver après la capture de 2 bandits. D'autant que, dans le plan du commandant, la vengeance devait être éclatante. Il voulait une vengeance sensationnelle, des représailles terribles. Les hommes devaient non seulement attaquer l'automobile à coups de revolver, mais essayer de tuer ceux qui se trouvaient dedans. Puis, après cette fusillade, les hommes du commandant devaient lancer l'automobile, emportant les morts dans un fossé et y mettre le feu. Alors, un télégramme serait envoyé au roi des détectives, lui annonçant l'accident et lui faisant pressentir qui l'avait provoqué et comment il avait eu lieu. Et le télégramme devait se terminer par ces mots « À bon entendeur, salut !» Et voici que des émissaires du commandant arrivaient un par un, non pas victorieux, mais tous plus ou moins éclopés. Quand il vit arriver péniblement, soutenu par 2 camarades, celui de ces hommes qui devaient lui faire le rapport, le commandant blêmit et tapa du pied, poussant un horrible juron de rage. L'homme blessé assez gravement avait reçu un pansement sommaire. Il souffrait énormément et ce n'était qu'à force de volonté qu'il parvenait à se tenir ainsi en face de son chef, à ne pas s'évanouir. Il raconta avec peine l'attaque de l'automobile et dit comment elle s'était défendue. « Enfin, demanda le commandant, crois-tu qu'il y a des blessés, des morts dans l'automobile des détectives ?» Le bandit n'osa pas dire qu'il le croyait. « Non, chef, répondit-il, non, j'espère, mais je ne peux pas l'affirmer. » Le commandant, sachant que les jurons n'arrangent nullement les affaires, après avoir entendu l'évaluation des pertes, se mit en mesure de parer à cet accident qui diminuait encore ses chances de succès. En résumé, tous les hommes de son automobile étaient hors de combat. Ils s'étaient entassés dans la voiture, s'y tenaient aussi nombreux qu'il était possible. Donc chaque balle qui entrait par les glaces de l'auto, par les panneaux, par la capote arrière, rencontrait un corps et faisait une blessure. Pas un coup ne fut perdu. Et c'est pour cela que l'automobile du roi des bandits, au lieu de lui amener du renfort, n'apportait que des blessés, des non-valeurs et l'annonce d'une nouvelle défaite. Mais le roi des bandits n'avait pas à se montrer devant ses hommes abattus ou défaits. Le seul moyen de courir à la défaite est pour un chef de reconnaître que dès les premiers coups, il peut être battu. Le commandant se domina donc. « Bien, bien, fit-il, nous aurons une revanche plus grande à prendre. » Le commandant attendit que la nuit fût complète. Il quitta la grotte dont, par prudence, il donna l'ordre de ne pas refermer les barrières de ronces. Puis, avec ses hommes, il descendit, suivant un plan d'attaque de longtemps préparé, dévala jusqu'à la villa de nos amis où se tenaient Martin Dumas et ses lieutenants. Si la colère, la rage, le désir de frapper un grand coup n'avaient pas aveuglé le commandant, je serais demandé tout de suite comment il pouvait se faire que les chemins jusqu'à la villa lui étaient si facilement accessibles. En effet, les alentours de son repère étaient bien gardés. Nul n'aurait pu s'aventurer sur le chemin sans être suivi, arrêté. Et à présent, toutes les voies conduisant à la villa étaient libres. Pas un homme de Martin Dumas, sous quelque déguisement que ce fût, pas un gardien, pas une sentinelle. Et avec un peu de réflexion, cela devait paraître anormal. Surtout quand on connaissait la prudence de Martin Dumas et les précautions dont il aimait à s'entourer. Mais le commandant avait trop envie de se venger, de montrer au roi des détectives qu'il ne le redoutait pas, que malgré ses deux premiers succès, lui, le commandant, non seulement ne se reconnaissait pas vaincu, mais qu'au contraire, cela doublait son audace. Et il pensa aussi que Martin Dumas, ayant ses deux prisonniers à emmener et avait pu quitter la villa, ne laissant que deux ou trois hommes dans la maison. Ces hommes n'éprouvaient nulle envie de passer une nuit à la Belle Étoile, et tranquillement devaient se tenir dans la maison, occuper même des chambres, comme leur chef et ses lieutenants. Même ces transformations, ces Martin Dumas qu'on trouvait à plusieurs endroits à la fois, qui donnait à croire que le roi des détectives voulait le lancer sur une fausse piste et préparer sa fuite. Ses espions lui disaient bien que personne n'était sorti de la villa, que l'on y avait vu Martin Dumas lui-même et Prosper se promener dans le jardin. Mais que croire quand des rapports aussi consciencieux disait que le roi des détectives se trouvait à la gendarmerie de Fontainebleau, et quand lui-même s'était si fortement trompé, en arrêtant deux peintres dont il ne pouvait établir la véritable identité. Oh, tout cela s'embrouillait énormément. Le mieux, se dit le commandant, le mieux c'est de frapper un bon coup. Nous verrons après ce qu'il y a de vrai dans tout cela. Car Martin Dumas sera forcé de se démasquer et d'accourir au secours de ses amis menacés. Le commandant était arrivé devant la villa. La chance commençait à le favoriser. Le temps, jusqu'ici encore supportable, semblait vouloir se gâter comme l'avant-veille. Au ciel, de gros nuages roulaient, annonçant l'orage. La nuit était profonde et le vent s'élevait et réveillait la grosse voix de la forêt. « Belle nuit pour un mauvais coup !» dit le commandant. Dans la chambre de Martin Dumas, une lumière brilla assez longtemps. Tapis dans les fossés, les herbes sous les arbres et les bandits attendirent que cette lumière fût éteinte. Quand ils jugèrent que celui qui avait veillé jusque-là s'était couché et devait être endormi, le commandant et ses hommes approchèrent encore de la villa. « Qui est dans cette chambre ?» demanda le commandant. « C'est celle de Courville, lui répondit-on. « Mais de Courville, mais Courville n'a pas pu revenir ici, blessé, souffrant, il est à Paris. » Oui, sans aucun doute. Quelqu'un donc occupe sa chambre. Oui, chef. De même que nous ne savons pas si Martin Dumas est réellement dans la sienne. Le commandant crut que ses suppositions pouvaient être vraies. Martin Dumas était rentré à Paris, cachant sa fuite sous ses apparitions multiples. Donc on pouvait attaquer la villa, gardée seulement, selon toutes apparences, par des sous-ordres. Car le commandant s'imaginait que cette lumière qu'on avait vue assez tard dans la soirée éclairer la fenêtre de la chambre réservée au roi des détectives était voulue. Elle devait donner le change, faire à croire que Martin Humard se trouvait à la villa, tandis que l'un de ses hommes occupait sa chambre. Or, le commandant ne redoutait en aucune façon les lieutenants de son ennemi. De Martin Dumas, il reconnaissait la grande valeur, mais il lui plaisait quand même de se mesurer à lui. Quant à Prosper et à Philippe, tout en les déclarant très courageux, très forts, il les jugeait bien au-dessous de lui et nullement de taille égale à ses lieutenants à lui. Peut-être, en cette opinion, le commandant faisait-il erreur. Mais le commandant sentait en lui un tel désir, un si grand besoin de vengeance, qu'il finissait par prendre ce qu'il eût souhaité pour la réalité. Et maintenant, croyant que l'heure de la revanche était venue pour lui, il donna le signal de l'attaque. Au loin, sur la route, aux alentours, dans le village, sur la Seine, personne de suspect. Les bachots du bord de l'eau étaient occupés par des gens à lui. Le champ où devait se livrer la bataille était, pour ainsi dire, peuplé par ses propres troupes. On n'avait donc pas de ménagements à garder. On pouvait attaquer hardiment. Maintenant, la porte de la grille, on avait la clé comme dans la serrure, était ouverte. Les bandits pénétrèrent dans le jardin, tandis qu'en même temps d'autres compagnons entraient par le petit parc descendant au bord de la Seine. Le commandant dirigeait en personne l'opération. Il passa dans le jardin et, contournant la maison, vint encourager ses hommes qui arrivaient par le parc. Reconnaissons que l'attaque fut admirablement conduite. La manœuvre s'exécutait avec une précision parfaite. Les hommes se rejoignirent comme on l'avait arrêté, établis ensemble, avec un accord qui eût ravi le plus difficile des chefs manœuvriers. Le mouvement se faisait au demeurant dans le plus grand silence et, si j'ose le dire, dans la plus complète invisibilité. Ce n'étaient pas des ombres qui marchaient dans ce jardin, dans ce parc, mais semblait-il des ombres. Car sous leurs pas, le gravier des sentiers ne crissait même pas. Et la nuit, de plus en plus noire et lourde, leur donnait le précieux concours de son opacité et du bruit du vent qui soufflait de plus belle. Par prudence, les bandits avaient, selon une méthode que nous connaissons, rendu muet le vieux chien qui avait la mission, dont il ne se souciait en aucune façon, de garder le garage et aussi la maison. Par le moyen classique du morceau de fromage dans lequel on introduit une boulette d'opium, ils avaient, dans la soirée, endormi la vigilance très minime déjà de ce fidèle gardien. Donc, à coup sûr, ils avançaient. Personne ne pouvait les déranger, les arrêter au début de leur opération. Devant la villa, ils s'enhardirent. Silence, silence complet, silence absolu. Tout le monde dormait profondément. Le commandant se dit que les hommes que Martin Dumas avait mis là pour garder la maison avaient dû céder enfin au sommeil. Ils avaient certes veillé une partie de la nuit, on s'en était rendu compte par la lumière que les fenêtres laissaient passer. Mais à présent, toute crainte avait certainement disparu, le jour n'était pas loin. Il était à croire que les bandits n'attaqueraient pas cette nuit. Les hommes de Martin Dumas s'étaient donc endormis. Alors, plus confiants encore dans la réussite du coup de main, les bandits attaquèrent la porte de la villa. Comme pour la porte de la grille, il possédait une clé. La porte s'ouvrit donc sans grand effort, sous leur poussée, et roula sur ses gonds sans faire le moindre bruit. Pour l'ouverture des portes, les bandits semblaient posséder une habileté aussi grande que celle du roi des détectives. Les voici enfin dans la maison. Oh, ce n'est plus seulement deux bandits comme la première fois qui y pénètrent, mais bien six ou sept. Ils passent dans le vestibule et s'engagent dans l'escalier. Ils arrivent à l'étage où se trouve la chambre des maîtres de la villa. Ils écoutent, silence encore. De plus en plus confiants, ils montent toujours, sans faire le moindre bruit, à l'étage suivant. C'est là que se trouvent les chambres du roi des détectives, du lieutenant et la mienne à moi à Courville. La manœuvre était celle-ci. Les bandits devaient se placer devant chaque porte, essayer de les ouvrir avec des rossignols. Et si les rossignols ne marchaient pas, une pince, monseigneur, ferait l'office de sésame. Les portes devaient être ouvertes en même temps, d'un seul coup. Les hommes devaient pénétrer ensemble dans les chambres et s'emparer des hommes de Martin Numa, ou les abattre à coups de massue en caoutchouc avant qu'ils aient pu faire la moindre tentative de résistance. Puis, si la chose semblait possible, il devrait emporter deux ou trois de ces détectives comme otages. La victoire serait un triomphe si l'on parvenait à prendre soit Prosper, soit Philippe. Les bandits allaient toujours, maintenant non seulement confiants, mais certains de la réussite. Ils atteignaient les dernières marches qui faisaient gagner l'étage tant désiré. Dans la maison, aucun bruit. Au dehors, le vent soufflant avec rage étouffait les quelques craquements faibles que malgré tout le parquet faisait entendre sous le poids de ses hommes. C'était parfait. Déjà, les premiers mettaient le pied dans le couloir, les autres venaient, marche à marche, tout contre. Tout à coup, dans le silence de la maison, retentit un puissant, affolé « Coin, 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 coin !» La maison s'emplit de ce cri de canard qui, dans la nuit, semblait doué d'une ampleur extraordinaire. Les couloirs résonnèrent, les escaliers comme une conque répercutèrent ce « coin, coin » en le décuplant. Le « coin, coin » envahit la maison tout entière comme une sonnerie de clairon grotesque. Et comme un coin coin ne va jamais seul, comme les canards s'en vont par deux, voici que dans la basse-cour, d'autres coins coins retentirent, et avec les cris des canards, le gloussement des poules et un chant de coq. Dans la maison, le canard coin coinait de plus belle. Les bandits s'arrêtèrent interdits, n'osant ni avancer ni reculer. Tout à coup, la porte de la chambre des maîtres de la villa s'ouvrit. « Mais vas-tu te taire enfin, vilaine bête ?» dit une voix d'homme. L'homme et sa femme parurent sur le palier de leur chambre en tenue de nuit. « Il faut la faire taire, disait la femme, sans quoi elle va manquer la couvée. » « Mais quelle idée de nous réveiller, elle va révolutionner la maison !»« Ah, c'est que quelque chose l'a dérangée, peut-être le chat qui est allé lui rendre visite. Alors je vais voir. » L'autre s'engagea dans l'escalier, donna la lumière. Et tout à coup, il poussa un cri. « Mais qui est là? À moi, au secours !» Il tomba à terre, poussant un grand cri. La jeune femme, qui rentrait dans sa chambre, accourut au cri de son mari. Elle put apercevoir les bandits qui descendaient l'escalier. Elle appela « Au secours, au voleur !» Mais des cris retentirent, des hurlements, des coups. Puis le crépitement du revolver. La bataille commençait. Martha Dumas et ses hommes tombaient sur les bandits. Et se mêlant aux cris des hommes qui luttaient, le coin-coin retentissait, dominant le bruit de la bataille comme s'il sonnait la charge. Dans le jardin, dans le parc, partout, des cris, des coups de revolver. La bataille était bien engagée. Le duel entre Martin Dumas, roi des détectives, et le fameux roi des bandits avait lieu. Et ce duel, grave, partie décisive où des hommes ardents cherchaient à se tuer, avait lieu, tandis que pour Fanfare, les combattants avaient les cris d'une basse-cour affolée, le chant d'un canard. Ainsi, en toutes choses humaines, l'ironie se dégage, et le dramatique coudoie le plus imprévu comique. Les coups de revolver, de massue, accompagnés de coin-coin.